Au micro, Ilan Rosanquier, qui a le plaisir de vous présenter un nouveau numéro de Chronique pour la paix. Chères auditrices, chers auditeurs, la presse israélienne, et notamment le Yedioth Ahronot, fait état ce matin de la reprise probable des manifestations de colère et de protestation des Israéliens d'origine éthiopienne suite à la libération possible du policier qui a causé la mort de ce jeune Éthiopien, Salomon Teka, le 30 juin dernier, au cours d'une altercation alors qu'il n'était pas en service. Il semblerait en effet que les analyses balistiques confirment sa version des faits, à savoir qu'il aurait tiré au sol et que Salomon Teka aurait donc été atteint par ricochet. Certes, cela n'épuise pas tout le sujet, mais d'autres questions restent en suspens, notamment celle du bien fondé de l'usage de son arme à feu dans ces circonstances. Mais ce matin, nous avons choisi de ne pas traiter de l'actualité la plus chaude et de prendre un peu de recul pour nous concentrer un peu sur cette communauté d'origine éthiopienne qui est, au-delà des clichés, somme toute, assez peu connue. Pour ce faire, nous sommes en ligne avec Daniel Friedman, qui est sociologue, cinéaste et qui a travaillé depuis longtemps sur cette question et il a commis un ouvrage de référence avec Ulysse Santamaria intitulé « Les enfants de la reine de Saba, les juifs d'Éthiopie, les falachas, histoire, exode et intégration ». Daniel Friedman, bonjour.
Bonjour.
Alors justement, je viens de citer un peu le sous-titre de votre ouvrage « Les Juifs d'Éthiopie, Falacha, Histoire, Exode, Intégration », et ça va un peu constituer le fil de notre entretien. Tout d'abord, donc, qui sont ces Juifs d'Éthiopie? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les présenter?
Alors, c'est une population éthiopienne, ethniquement parlant, qui appartient au substrat de la population éthiopienne, c'est-à-dire qui appartiennent aux populations Agao, qui forment le peuplement originaire de l'Éthiopie. Et ils pratiquaient d'ailleurs ces langues Agao, qui étaient encore assez répandues parmi eux, quand ils ont été abordés et étudiés au XIXe siècle par Joseph Halevi, qui était un sémitisant français, qui est allé en Abyssinie en 1867-68 pour vérifier, si l'on peut dire, si cette population qu'on appelait les falachas, un terme qui signifie, qui est plutôt dérogatoire et qui signifie étranger, exilé en langue amharique, qui est la langue dominante éthiopienne, pour vérifier si ces gens étaient des juifs. Parce que au XIXe siècle, juste avant, la presse juive anglaise, notamment le Jewish Chronicle, qui était le premier journal juif, semble-t-il, au XIXe siècle, avait annoncé que des missionnaires protestants étaient allés en Éthiopie pour convertir ces falachas, des populations qui étaient très mal connues, mythiques, pour les convertir de leur religion juive au christianisme. Et ça avait suscité l'indignation des juifs au XIXe siècle, et donc Joseph Halevi était allé en Abyssinie pour étudier cette population et voir si c'était vraiment des juifs. Il a passé plusieurs mois parmi eux, il a écrit un certain nombre d'articles sur eux, sur leur langue, et sa conclusion c'était que ce sont bien des juifs, même s'ils ne parlent pas l'hébreu. Ils ont beaucoup de rites semblables aux juifs, ils pratiquent ils pratiquent par exemple les grandes fêtes qui sont pratiquées par les autres juifs, comme le Yom Kippour, comme le Rosh Hashanah. Ils ne connaissent pas par contre certaines fêtes tardives du judaïsme, et ils pratiquent un judaïsme archaïque. Et donc il faut les reconnaître comme juifs. Ça a été sa conclusion.
D'accord. Et donc du 19e siècle, comment passe-t-on au 20e siècle? Et alors, du 19e siècle, comment passe-t-on au 20e siècle et à leur arrivée en Israël?
Alors, d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que ce Joseph Halevi, il a donc ce dernier tiers du 19e siècle, une vision prémonitoire. Il préconise que on envoie ces falachas en Palestine, où les premières colonies juives viennent d'être créées, car, dit-il, ce sont d'excellents agriculteurs et artisans. Mais ça ne va pas être appliqué. Et l'Alliance israélite universelle qui missionne sa mission ne le suit pas. Et par contre, c'est au XXe siècle qu'un de ses disciples, Jacques Feitlovitch, qui était un juif religieux, pratiquant, rabbin, reprend le flambeau de son maître Joseph Halevi, va en Abyssinie, et puis va chez ses falachas, et il reprend la même position que Halevi. Il dit ce sont des juifs, il faut les reconnaître, et il commence toute une action pour les faire reconnaître comme juifs par les communautés juives. Alors il va collecter des signatures des grands rabbins de l'époque, du début du XXe siècle, et il crée un comité pro-falacha pour recueillir des fonds, et il crée les premières écoles juives à l'intention des falachas en Abyssinie, en Éthiopie. Abyssinie est le nom premier de l'Éthiopie à cette époque, et il en crée à Addis Abeba et dans d'autres endroits. Mais donc, et Jacques Feitlovitch milite pour la reconnaissance des falachas comme juifs. Quand l'État d'Israël est créé, il obtient quelques années après qu'un certain nombre d'entre eux puissent aller en Israël, un certain nombre de jeunes falachas, et suivre une éducation juive là-bas. D'ailleurs, certains d'entre eux retourneront en Éthiopie et éduqueront la communauté juive éthiopienne dans le sens, dans la perspective d'une immigration en Israël.
Mais c'est plus tard que cette immigration se réalise, donc.
Alors, cette immigration, elle se réalise. Au début, elle rencontre des difficultés, parce que, comme le dit, je crois, enfin, c'est ce qu'on lui attribue en tout cas, Golda Meir, on a assez de difficultés avec les Juifs orientaux, donc on ne va pas accroître nos difficultés d'intégration en amenant cette population africaine. Mais, tout de même, Jacques Feitlovitch obtient, oui, qu'un certain nombre de ces jeunes juifs éthiopiens puissent venir en Israël en 1955. Et donc certains d'entre eux retournent en Éthiopie, d'autres restent en Israël. Et c'est en 1973 que le grand rabbin séfarade Ovadia Yosef les reconnaît comme juifs. Et deux ans plus tard, le grand rabbin Ashkenaz suit. Et encore un peu plus tard, ils obtiennent en 1977, avec l'arrivée au pouvoir de Begin, l'obtention du droit au retour. Et c'est là que l'immigration massive peut commencer.
Donc en 1984, avec l'opération Moïse.
Voilà. Et voilà. Puis, avec l'opération Moïse en 1984, la première grande immigration massive a lieu. C'est la famine en Éthiopie, c'est la guerre civile entre l'Éthiopie et la province érythréenne qui veut faire sécession, et des millions de juifs, d'Éthiopiens, et parmi lesquels des milliers de falachas, prennent la route du Soudan dans un périple
extrêmement difficile,
souvent mortifère, puisqu'un tiers d'entre eux vont mourir en cours de route, de famine, de maladie. Et ils sont en Éthiopie, ils sont au Soudan, ils vont dans des camps, dans des grands camps de réfugiés.
Où ils restent, et après c'est effectivement l'opération Moïse, donc ce plan aérien qui va les faire parvenir
la nuit,
en 1984.
Avec le gouvernement soudanais de l'époque.
Voilà. Comme il nous reste peu de temps, parce que notre émission est courte, donc après, en 1991, il y a la deuxième opération Salomon, qui va permettre de faire monter en Israël environ un peu moins d'une centaine de milliers d'Éthiopiens, et qui sont actuellement autour de 150 000 en Israël, donc près de 50 000 nés en Israël.
Ouais.
Dans un article que vous avez publié en 2008, vous insistiez sur le paradoxe un peu de cette immigration qui, lorsqu'elle est venue en Israël, on s'est concentré davantage sur la question de son passé et de ses origines, plutôt que de son devenir, et qui était l'assimilation de cette de cette immigration, de cette communauté? Est-ce que les difficultés rencontrées, en particulier de la part du rabbinat et de la représentation que les gens se faisaient de ces Noirs, qui était déjà un terme péjoratif que les Ashkénazes utilisaient au détriment des populations sfarades, est-ce que vous pensez que cette question des représentations a été un peu le péché originel de la société israélienne à l'égard de cette communauté ?
Je pense que dès le début, il y a eu des difficultés. Bon, d'abord, leur reconnaissance, ça a été le résultat d'une longue lutte qu'ils soient reconnus comme juifs. Et ils l'ont été, mais cette reconnaissance a été assortie de certaines conditions, puisque le rabbinat a décrété qu'ils étaient certes juifs, mais qu'ils avaient été coupés du reste des communautés juives pendant des siècles, et qu'il fallait qu'ils fassent une circoncision symbolique, qu'ils fassent un certain nombre de qu'ils aient une espèce de conversion symbolique, même si ce n'était pas tout à fait le mot conversion qui était utilisé. Et donc on leur a par exemple imposé, le rabbinat, quand ils sont arrivés massivement lors de l'opération Moïse en 84-85 en Israël, en 1984-85, leur a imposé une conversion symbolique, une circoncision symbolique, qui était souvent camouflée sous forme de vaccin sur le pénis. Et par exemple, j'ai recueilli des témoignages, j'ai fait notamment un film documentaire où l'un des principaux dirigeants éthiopiens de l'époque, dirigeant du mouvement étudiant, raconte comment lui, on lui a dit, bon bien, vous allez avoir un vaccin sur le pénis, on les a emmenés dans une piscine, on leur a dit, et maintenant vous avez été vaccinés, allez, baignez-vous, sautez à l'eau. Et ils ont compris que c'était une circoncision camouflée, une circoncision honteuse, et ils ont senti qu'ils n'étaient pas pleinement reconnus.
Et puis après, en 1980, il y a eu ces premières manifestations.
Et a renoncé à cette circoncision.
Voilà, qu'on a dû renoncer. Après, en 1996, il y a eu l'histoire du sang, les dons du sang qui ont été rejetés par les hôpitaux et qui ont provoqué également de nombreuses manifestations. Et donc, même si depuis, l'intégration a fait son chemin et de nombreux Éthiopiens sont arrivés à des positions importantes dans la société civile, dans l'administration, dans l'armée. Le problème de cette l'acceptation de cette communauté reste quand même très de pleine actualité. Les derniers incidents le montrent, parce que si cette communauté s'était sentie intégrée, il n'y aurait pas eu ces manifestations. Oui. C'est un sujet complexe, on aura l'occasion d'y revenir.
Je voudrais ajouter une chose. Je pense
très rapidement
que la politique actuelle du gouvernement israélien vis-à-vis des réfugiés africains qui veulent obtenir le statut de réfugié pèse lourdement et a des conséquences sur les Juifs éthiopiens.
Probablement. C'était aussi un des thèmes que je souhaitais aborder, mais nous n'en aurons pas le temps cette fois. Il me reste à vous remercier, Daniel Friedman, et à annoncer à nos auditeurs que nous les retrouverons dans 2 semaines au cours de la prochaine émission de Chronique pour la paix, et que la prochaine rencontre à la rentrée organisée par La Paix Maintenant se déroulera le lundi 23 septembre au Cercle Bernard Lazare et traitera des élections israéliennes et d'analyse des résultats, élections qui auront lieu le 17 septembre. Il me reste qu'à vous remercier et à vous dire à dans 15 jours.